Armand Sylvestre, conte audacieux. Les représailles. Après avoir mis à mal 50 pucelles de grande maison et 1100 taureaux, sans en recevoir d'autres inconvénients qu'au derrière un coup de corne, dont le trou n'avait pas fait d'ailleurs double emploi. Le célèbre Spada Cascamillo, autodafé Pipi Sanchez, jouissait d'une de ces fortunes qu'acquièrent seules en Espagne les émules de Frasquello. Bien conservé, encore recherché des femmes, pour sa tournure impertinente encore, et aussi en vertu de cet attrait mystérieux du sang versé qui livre aux garçons bouchers les primeurs amoureuses des plus belles filles de Montmartre, Cascamillo possédait, dans les environs d'Hernani, une villa magnifique, où volontiers il exerçait une fastueuse hospitalité. On y mangeait en leur saison les meilleures tomates de toute la contrée. C'est instruit de ces magnificences que mon ami Adhémar Vézinet, faisant un tour, tra les Montes, avait exprimé à ses amis et cicérone Pedro, Rigolard et José Manzanares, qu'il avait ramené avec lui de Paris, le désir d'être reçu par le célèbre toréador, qui était de leur familier. Pedro Rigolard et José Manzanares avaient accepté la présentation avec d'autant plus d'enthousiasme qu'ils adoraient les tomates. Et puis mon ami Adhémar Vézinet n'était pas seul. Il avait emmené sa bonne amie, Mademoiselle Irma Pigevent, qui, plus encore, brûlait du désir de connaître le célèbre tueur de bêtes, et le moindre désir des femmes est quelque chose de sacré pour de vrais hidalgos. Charmante d'ailleurs, cette Irma Pigevent, une de ces petites filles d'Athènes qui naissent boulevard de Clichy, pour les délices des Phidias et des Apollons contemporains. Cascamillo reçut princièrement les invités. Il leur offrit au déjeuner des tomates qu'ils prirent pour des potirons. Puis on fit un tour dans les jardins, et Adhémar Vézinet y dépensa cet esprit fantaisiste qui en fait un compagnon recherché partout, improvisant des farces, disant des calembres d'aines, proposant des rébus qu'il dessinait sur le sable, pétulant, inattendu, absolument soucieux de faire rire, et y arrivant par cent moyens. Car c'est une vanité exquise, la seule de cet aimable garçon, de chercher à amuser le monde à toute force. Il y en a tant qui se chargent de l'ennuyer, qu'on ne saurait lui en vouloir. Au retour dans la maison, Cascamillo proposa une visite à la garde-robe. La coquetterie est un des péchés mignons des toreros. On ne peut s'en étonner chez des gens qui portent des chignons et font des effets de collants dans la rue. Et puis cela ne fait de mal à personne. La richesse de leurs costumes de combat est leur plus grand orgueil. N'est-ce pas par là qu'ils séduisent les femmes? Les costumes de Cascamillo étaient admirables. Un surtout, qu'il ne mettait qu'au grand jour, d'un bleu tendre, avec un ruissellement d'or fin. Un vrai corsage de guêpe, rayé par une ceinture du plus beau satin. Adhémar Vézinet tomba en extase véhémente devant cette veste rayonnante comme un ostensoir. Il ne put retenir l'expression de son enthousiasme, si bien que Cascamillo, en espagnol bien appris, s'empressa de lui dire dans sa langue naturelle « Seigneur, faites-moi le plaisir de l'accepter. » Or ceci est simplement une formule de courtoisie ibérique, à laquelle on doit incontinent répondre par un refus plein de reconnaissance, sous peine de passer pour un malotru. Vous diriez à un gentilhomme andalou que vous lui trouvez une jolie tête qu'il ne manquerait pas de vous inviter à l'emporter chez vous. Mais si vous faisiez mine de vouloir la couper pour la mettre sous votre bras, il se fâcherait tout rouge. La tête n'est pas précisément ce qu'il y a de plus précieux chez le toréador. Avec raison tient-il plus encore à ses coûteuses nippes. Mais l'imprudent Adhémar avait-il déjà décroché la superbe défroque pour l'envelopper? Si bien que, furieux au fond de son inconvenance, Cascamillo ne put toutefois revenir sur son offre. Avec une grimace qui n'échappa ni à Pedro ni à José, avec un sourire dont l'amertume eût épouvanté un observateur, il remercia notre compatriote de lui avoir permis de lui faire ce plaisir. Vézinet lui serra les mains avec effusion, et le pria de lui compléter le costume par le don du chapeau qui en faisait partie. Le toréador s'exécuta avec la bonne grâce d'un ours, dont on déchire le nez avec l'anneau qui y est passé. Mais notre compatriote ne s'en aperçut pas seulement, et redoubla ses actions de grâce. Pedro et Rosset jugèrent en dedans qu'il avait passé la mesure, et que Cascamillo se vengerait certainement. Comme ils étaient avant tout de leur pays, ils se promirent toujours in petto de l'y aider en contribuant à berner le pauvre Vésinet. Ainsi faut-il toujours se méfier de l'amitié expansive des étrangers, surtout quand on est chez eux. Ils purent bientôt démêler quelle serait la nature des représailles. Cascamillo était devenu, tout à coup, d'un empressement infini auprès de la délicieuse Irma, qui paraissait d'ailleurs sous le charme de cette cour si flatteuse pour une demoiselle de la Place Blanche. Cette chimène d'un nouveau Cid n'avait aucune des austérités passionnées de sa devancière. Elle allait bon jeu, bon argent, au-devant du déshonneur qui lui était évidemment proposé. Elle se ruait en pleine faiblesse et encourageait même l'assaillant de sa vertu par des coups d'œil en dessous et des sourires à la dérobée que seul Vézina ne surprenait pas. Il avait bien autre chose à faire. Déjà deux fois, en feignant d'avoir été incommodé par les tomates, il avait disparu pour s'aller regarder sournoisement, dans une glace, avec la fameuse veste sur le dos et le fameux chapeau sur la tête. Il se faisait peur à lui-même, une épée nue à la main, et se disait que s'il était taureau, il n'emmènerait pas large devant sa propre image. Ensuite, il agitait la cape rouge devant une chaise, et se mettait à genoux devant elle, attendant qu'elle lui voulût donner un coup de dossier, pour l'esquiver par un heureux mouvement. Il poussa le simulacre tauromachique jusqu'à planter des banderilles au cou d'une tête de taureau empaillée que Cascamillo avait attachée comme trophée dans son cabinet de toilette. Et durant qu'il se livrait à ses délassements sanguinaires, Cascamillo pressait de plus près sa conquête et obtenait un rendez-vous pour l'heure où le soleil serait couché. Il s'agissait cette fois d'un combat sérieux et dans lequel il était bien décidé d'aller jusqu'à la mort du taureau. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. J'ajouterai cependant que je n'ai jamais vu un matador tuer un taureau d'un seul coup, mais qu'ils n'ont toujours pas reprendre un plaisir cruel à recommencer plusieurs fois. L'heure du dîner sonna sur ces entrefaites. Un dîner magnifique, comme le déjeuner, avec des tomates plus grosses encore, et un nouveau convive, le jeune Pepe Rustono, élève de Cascamillo, espoir de la tauromachie à venir. Bébête comme une oie, mais plein de disposition pour son métier, et doué d'un appétit. On l'invitait rien que pour avoir le plaisir de le voir mettre à sac les plats et à néant les bouteilles. Bien entendu, la bonne amie de Vésinet fut placée à la droite du grand Cascamillo. Pepe Rustono à la droite de celle-ci, de l'autre côté, de façon que l'amant légitime fut le plus éloigné du monde, entre Pedro Rigolard et José Manzanares, spécialement chargé de lui donner des distractions. Pas difficile à distraire d'ailleurs Vésinet. Il suffit de le laisser parler bien à son aise, en riant aux larmes de ses calembres d'aine. En voilà un qui ne sait pas si tout le monde a plus d'esprit que Voltaire, mais qui se croit joliment plus d'esprit que tout le monde. On arriva ainsi au dessert, sans que ce pauvre diable se fût aperçu de rien. Et à la dernière grappe de muscat, le soleil s'était couché. Vous n'avez pas été touché, comme moi, de l'extrême pudeur de cet astre qui disparaît régulièrement, à l'heure où les hommes vont commencer à faire des cochonneries? Il faudrait faire une bonne face à tout le monde, dirent tout bas à Vésinet les perfides Pedro et Rosset, et sur cette aimable proposition ils l'emmenèrent sans difficulté. Cascamillo et Irma ne perdirent pas une minute, et le taureau fut mis à mort une première fois, après quelques passes brillantes. Après quoi une nouvelle course fut immédiatement commencée, plus sérieuse encore. Durant ce temps, Vésinet, qui avait trouvé son idée, était remonté au cabinet de toilette du toréador, avait enlevé du mur la tête empaillée que vous savez, et avait installé sa propre tête entre les deux immenses cornes, de façon qu'un visage de taureau apparaissait à la place du sien. Pour compléter l'illusion et donner aussi plus de temps aux amoureux, José et Pedro s'étaient déguisés en picador et devaient accompagner le faux taureau dans son invasion à travers les appartements, en feignant de le labourer de coups de lance. Aussi c'était complet, et ils crevaient de rire, sous leur grand chapeau, à voir Vézinet s'étant coiffé lui-même de l'attribut qui lui convenait si bien. Le quatrième taureau expirait, après un combat plus lent que celui des autres. Et quand le cortège entra comme la foudre, dans le salon où Cascamillo et Irma achevaient cette dernière course. En apercevant Vézinet, tous deux faillirent se faire éclater la rate, tant fut grande leur hilarité. Mais un accident terrible faillit arriver. Ce damné Pépé Roustonneau, qu'ils avaient laissé endormi dans la salle à manger et que le vacarme réveilla, accourut comme un fou. Et encore un peu gris des libations mal cuvées, ne prit-il pas au premier instant Vézinet pour un vrai taureau, et ne se rua-t-il pas sur lui, un couteau à fromage dont il était armé à la main? On eut toutes les peines du monde à l'empêcher de planter cette arme dans la nuque du malheureux farceur. Vézinet essayait très sérieusement de se défendre avec ses cornes. Ce fut un homérique combat, qui se termina par un toast général à la santé d'Irma Pigevant. Mais depuis ce temps-là, Cascamillo, Otto Daffé et Pipi Sanchez évitent de montrer ses beaux habits aux touristes français. Et franchement, pour le prix auquel ils les montrent, ceux-ci n'ont qu'à s'en féliciter.